Docteur Alain Casgrain, témoignage d'un psychiatre, comment j'en suis arrivé à pratiquer l'EFT.
Bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être parmi vous pour parler d'EFT. Je remercie particulièrement Cathy Berthoud de me donner cette possibilité, et ainsi que Bianca Van Erot, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Comme l'intitulé de l'exposé l'indique, je suis psychiatre et depuis une quarantaine d'années. Alors, j'ai exercé à Orléans en médecine libérale et à l'hôpital général. Et si je dis j'ai exercé, c'est que j'ai arrêté mon activité il y a quelques semaines, donc au début de l'année. Je vais d'ailleurs à ce propos vous faire une confidence. J'aurais pu prendre ma retraite à 65 ans, comme c'est possible pour les médecins, mais j'ai continué à exercer encore pendant quelques années, cela à cause, ou plutôt grâce en partie à l'EFT. En effet, j'ai trouvé tellement de plaisir et tellement d'émerveillement à travailler avec les nouvelles psychothérapies énergétiques et l'EFT en particulier, que j'ai joué les prolongations pour essayer de faire partager cela au plus grand nombre possible. Alors, au cours de cet exposé, je vais d'abord vous expliquer comment j'en suis arrivé à utiliser l'EFT. Puis nous verrons dans quelles indications, comment je l'ai utilisé, avec quels résultats. Cela me permettra de dégager ce que je trouve particulièrement intéressant dans l'EFT par rapport à d'autres moyens psychothérapiques. Je voudrais préciser en préambule que je suis psychiatre utilisant l'EFT, mais que je ne suis pas praticien EFT, ne faisant que de l'EFT. Vous qui êtes là aujourd'hui, je pense que pour la plupart, vous connaissez bien l'EFT, que vous la pratiquez pour vous, pour votre entourage ou au niveau professionnel. Ça me paraît évident. Les résultats au quotidien sont probablement pour vous normaux, je dirais presque banalisés, ça va de soi. Mais pour moi, ce que l'on peut faire avec l'EFT n'est vraiment pas banal. Ce qui me fait dire cela, c'est mon parcours professionnel et vous allez comprendre pourquoi. J'ai eu une formation médicale classique, scientifique, rationnelle, orthodoxe, bien carrée. Et dans les années 1970, en psychiatrie, on avait deux possibilités thérapeutiques. Il y avait les médicaments. À l'époque, on pensait qu'on allait tout pouvoir régler à coups de molécules chimiques. On a vu les résultats. Et puis, il y avait un deuxième volet qui était la psychanalyse, qui, à l'époque, régnait vraiment en hégémonie sur le monde de la psychothérapie. Alors, formé à la pratique des médicaments par la faculté de médecine et puis à la psychanalyse par une longue démarche personnelle très coûteuse, j'ai utilisé ces deux possibilités thérapeutiques pendant une vingtaine d'années dans ma clientèle. Mais à cette époque, je me suis aussi intéressé à l'homéopathie. Je me suis formé à l'homéopathie et j'ai beaucoup utilisé aussi la relaxation. Malgré tous les séminaires de formation que je pouvais faire, les congrès, il y avait un domaine dans lequel ma pratique ne me plaisait pas énormément, c'était les troubles anxieux. Les phobies, l'agoraphobie, les crises d'attaque de panique, l'anxiété sociale et surtout les TOC auxquels je m'intéressais tout particulièrement. Mon indice de satisfaction dans le traitement de ces troubles anxieux à l'époque, avec les moyens que j'avais, sur une échelle de 0 à 20, je dirais c'était 9, 10, on allait jusqu'à 11, mais ça n'allait pas plus loin. C'est pour cette raison qu'au début des années 1990, j'ai suivi pendant 3 années la formation en thérapie cognitivo-comportementale. Ça me paraissait beaucoup plus adapté pour le traitement des troubles anxieux. Et là, je dois dire que ça a été une grande bouffée d'air frais. C'était un autre univers qui s'ouvrait. Je pouvais aider, soigner, voire guérir des pathologies, je dirais des pathologies, des personnes souffrant de pathologies, je préfère, qui était peu accessible aux techniques que je possédais auparavant. Là, mon indice de satisfaction dans ma pratique, il a un petit peu augmenté. J'étais à 13-14 déjà. Mais il y avait une ombre qui persistait dans ce tableau, c'était celle des syndromes post-traumatiques. J'étais expert psychiatre auprès des anciens combattants et j'ai vu un nombre considérable d'anciens militaires qui avaient fait la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient fait l'Indochine et l'Algérie, qui souffraient de syndromes post-traumatiques avec des phobies, des états dépressifs, des cauchemars, des flashbacks, qu'on n'arrivait pas à traiter. Eux, ils arrivaient à se traiter eux-mêmes en s'alcoolisant. C'était quand même pas le top. Hein. J'en ai vu un certain nombre et là, on était vraiment en échec. Aussi, au début des années 2000, j'ai entendu parler d'une technique que les Américains utilisaient, les Nord-Américains, pour guérir, soigner les vétérans du Vietnam qui avaient un syndrome post-traumatique. C'était l'EMDR. Donc, je me suis formé à l'EMDR avec le regretté David Servan-Schreiber. J'ai découvert une technique psychothérapie qui était un peu particulière à l'époque, hein, ça faisait un peu particulier, et où on pouvait traiter de façon vraiment presque miraculeuse des pathologies qui auparavant étaient vraiment très difficiles à aborder. Je dois vous dire là que mon indice de satisfaction, il a encore un peu monté. J'étais bien à 16 sur 20. Dans l'association EMDR France, nous avons un site internet d'échange entre thérapeutes. Et là, de temps en temps, je voyais apparaître dans ces échanges un sigle, EFT. EFT. Je ne savais pas ce que c'était, j'en parlais autour de moi, personne ne savait. Alors, je suis allé voir mon ami Google. J'ai tapé EFT et là, je suis tombé sur le site de Gary Craig. Donc, j'ai découvert sa technique un peu particulière et je dois vous avouer qu'au départ, je trouvais cela très bizarre. J'étais fort sceptique. Ce qui a vaincu mon scepticisme, et je m'en souviens encore de ce que je me suis dit, c'est l'attitude de Gary Craig. Qu'un tel homme ait mis sa technique à la disposition de tous, et cela gratuitement, m'a vraiment étonné. Qu'un Nord-Américain ne veuille pas faire le plus d'argent possible avec une telle découverte était pour moi une révélation. Et je me suis dit, cet homme doit être exceptionnel et sa technique ne peut donc qu'être bonne et superbe. J'ai lu, je me suis formé avec l'association Ahmet et Bianca en particulier, et j'ai pratiqué, j'ai utilisé en clientèle, et là, mon indice de satisfaction, il a encore monté, je dois dire, j'étais bien à 18 sur 20. Je pense que vous avez compris pourquoi l'EFT n'est pas quelque chose de banal pour moi. C'est comme si, en quelques années, j'étais passé de l'ère de la bougie à celle du laser, pratiquement. Maintenant, nous allons voir ensemble dans quelles indications et de quelle façon j'ai pu utiliser l'EFT. Je l'ai utilisé dans des syndromes post-traumatiques récents, avec un effet rapide et durable. Je vais vous citer parmi d'autres cas, ce cas d'une femme que je suivais pour un état dépressif. Un jour, elle arrive à une consultation dans un état d'anxiété très important. Quelques jours auparavant, elle avait été victime d'un accident de la route, sans dommages corporels, mais elle ne pouvait plus reprendre le volant. Et son mari, qui l'avait conduit à la consultation, avait vécu un véritable calvaire, tellement sa femme avait peur de tout ce qui se passait sur la route. Cette femme connaissait bien, l'alliance thérapeutique était bonne. Je lui propose l'EFT, elle y adhère, et nous voilà partis. Nous faisons une séance sur l'accident qui dure 30 minutes environ. À la consultation suivante, elle me dit qu'elle a repris la conduite sans difficulté. Que nous montre cet exemple? Eh bien, la rapidité, l'efficacité et la simplicité de l'EFT dans ce type de problème. Mais pour moi, simplicité ne veut pas dire forcément facilité. En effet, lorsqu'il s'agit de syndromes post-traumatiques complexes et anciens, le travail à faire est beaucoup plus long et plus compliqué et, selon moi, ne peut se faire sans une bonne formation. Ça, c'est vraiment important. Autre problème où les résultats sont souvent très intéressants avec l'EFT, celui des douleurs. En général, dans les cas de douleurs récentes, le traitement ne pose pas trop de problèmes. Pas trop. Mais dans les douleurs chroniques, il n'en est pas toujours de même. Je vais vous exposer une observation. C'est une femme de 48 ans qui est écrivain, qui est mariée, qui a un enfant, qui m'est adressée par son médecin homéopathe et acupuncteur. Elle souffre d'une douleur abdominale à point de départ vésicale qui la réveille pratiquement toutes les nuits. On a fait tous les examens, tous les traitements ont été essayés, rien n'y fait. Je la vois, on fait quelques entretiens et puis quelques séances d'EFT sur autre chose. Et un jour, on fait une séance d'EFT avec le point de départ sur cette douleur qu'elle ressentait. Après un certain nombre de rondes, elle se connecte soudain à un souvenir source qui était en relation avec le décès de sa mère qui était morte d'un cancer avec une ascite abdominale. Et là, ça a entraîné une abréaction intense qu'il a fallu gérer, qui a été longue, mais qui ensuite a permis au travail psychothérapeutique de se faire. Ce problème qui durait depuis une vingtaine d'années s'est estompé et a disparu dans les nuits qui ont suivi. Combien de séances de psychanalyse aurait-il fallu pour en arriver là ? Que retenir de cette observation ? Là encore, l'EFT montre son efficacité, sa rapidité d'action, sa simplicité, mais cela ne s'est pas fait forcément dans la facilité, car gérer une abréaction aussi intense demande une certaine expérience pour ne pas se retrouver dans une grande difficulté. Il est un autre domaine où la pratique de l'EFT est reine. Récemment, je rencontrais des collègues psychiatres à Orléans qui ont aussi le virus de l'EFT, et je leur posais la question, dans votre pratique, à quoi vous sert l'EFT ? Et là, unanimement, presque en cœur, ils m'ont dit les phobies. Alors, je vais vous citer un cas parmi bien d'autres. C'est une jeune femme de 35 ans, mère de deux enfants, suivie depuis un an environ pour un état dépressif réactionnel à des soucis professionnels. Je la vois un jour en consultation, alors qu'elle va bien, elle ne prend plus de traitement. Et au début de la consultation, elle m'a dit « Je voudrais qu'à la fin de la consultation, vous me fassiez une prescription pour des somnifères. » « Ah bon, vous ne dormez pas bien ?»« Non, non, je dors très bien. »« C'est pour votre mari ?»« Non, non, ce n'est pas du tout pour mon mari. » »« Je vais vous expliquer. » Mon mari est pompier et son comité d'entreprise a organisé un voyage et dans 3 jours, nous partons au Mexique. Le problème, c'est que j'ai une phobie épouvantable de l'avion. Donc, la seule solution, c'est que je dorme tout le temps. Je la connaissais bien. J'avais du temps ce jour-là. Donc, je lui dis, on pourrait essayer quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je lui explique rapidement. L'alliance thérapeutique étant bonne. Après quelques explications, donc, nous avons recherché toutes les séances à traiter depuis l'arrivée à l'aéroport jusqu'à l'installation dans l'avion. Cela a parfaitement fonctionné. Ça a duré 40 minutes. La dernière séquence que nous avons traitée en imagination, c'était « Je suis assise dans l'avion, sur mon siège, avec la ceinture attachée et avec une émotion quasiment nulle. » Elle est partie. Je l'ai revue 2 mois plus tard. Elle me parle de choses et d'autres. Son voyage au Mexique. Elle ne m'en parle pas. Je dis, et votre voyage au Mexique ? Ah ouais, c'était terrible, c'était super, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Ouais, parle pas de l'avion. Et l'avion ? Ah oui, bah non, il ne s'est rien passé. Et d'ajouter. Vous savez, j'ai beaucoup ri intérieurement parce qu'il y avait des copains de mon mari, des pompiers, des grands gaillards, et qui avaient une peur. Ils ne fanfaronnaient pas. Hein. Voilà. C'est quand même extraordinaire. Là encore, rapidité, simplicité, efficacité. J'ai pu traiter aussi rapidement bien d'autres phobies comme celle du dentiste. Extraordinaire, ça, le dentiste. Du sang, des piqûres, des vomissements, des animaux. Mais la guérison d'une phobie par l'EFT n'est pas toujours aussi rapide. Je vais vous citer un autre exemple pour étayer cela. C'est un cas particulièrement intéressant que je vais un petit peu développer car il va nous éclairer de plus sur un point que je trouve formidable dans l'EFT. Nous allons découvrir ensemble lequel. Il s'agit d'une femme de 36 ans, directrice administrative d'une importante structure de soins, qui est divorcée et remariée depuis 2008 et qui est sans enfant. Enfance dans une famille très pathogène, que je ne développerai pas. Violée à l'âge de 17 ans par un ami de la famille. Elle n'en a parlé pour la première fois qu'à son second mari. Cette femme présentait une pathologie grave et complexe, évoluant depuis l'âge de 20 ans. Sur un fond dépressif important, existait une agoraphobie avec trouble panique, une anxiété sociale, des tocs majeurs de souillure et de rangement qui lui prenaient 4 heures par jour, des épisodes de boulimie vomisseuse, des phobies spécifiques, des éléments de syndrome post-traumatique en rapport avec le viol. C'est tout, je m'arrête là. C'était la première fois qu'elle consultait un psychiatre suite à des déboires professionnels. Elle avait réussi jusque-là à maintenir un équilibre psychique précaire grâce à une hyperactivité et un surinvestissement professionnel. Très défendue, rigide, n'ayant qu'une demande, celle de continuer à fonctionner comme avant. Après quelques entretiens, ne sachant pas très bien par quel bout prendre tout ça, je lui pose la question suivante. Quelles seraient parmi les difficultés que vous vivez, celles qui, si elles venaient à disparaître, changeraient considérablement votre vie? Et là, à mon grand étonnement, elle me dit « ma phobie des araignées ». Bon, cette phobie toutefois était majeure. Le simple fait de prononcer dans mon bureau, le mot araignée avait déclenché une crise d'angoisse épouvantable. Le simple fait de prononcer le mot araignée. À la fin de la séance, je lui expliquais qu'il existait une thérapie qui pourrait l'aider. Bon, à la consultation suivante, malgré son côté rationnel, cette femme a d'emblée adhéré à ma proposition d'EFT. En fait, cela la rassurait, car rien n'était remis en cause dans son mode de fonctionnement psychologique. En tenant compte de sa phobie très importante et de sa réaction lors du dernier entretien, j'avais pas envie que ça recommence, j'ai pensé qu'il fallait faire une désensibilisation très progressive. Nous avons donc listé ensemble toutes les situations araignées imaginables. Nous les avons classées sur une échelle de 0 à 10 en fonction de l'anxiété qu'elles pouvaient induire en imagination. La première séquence que nous avons traitée, pour vous donner une idée, même si j'ai cette peur de cette petite araignée là devant moi à 10 mètres, je choisis d'être calme et sereine en présence de cette araignée. Nous avons fait cela avec la méthode des choix de Patricia Carrington. La peur qui était à l'origine de 8-9 sur 10 est passée en quelques rondes à 2 sur 10. Mais n'ayant pas malheureusement le temps de terminer cette séquence, je lui ai demandé de continuer chez elle, ce qu'elle a fait. Et à la séance suivante, l'émotion par rapport à cette séquence était à zéro. Suivant le même principe, nous avons travaillé sur environ une quinzaine de situations, dont la dernière était la suivante, même si j'ai cette peur de cette grosse araignée sur ma main. Un certain nombre de situations ont été travaillées seules à domicile. 4 semaines après le début de la thérapie, elle me dit avec des larmes de joie, elle en pleurait, « Il y a quelques jours, je suis rentré dans le local poubelle chez moi et il y avait une araignée. Je l'ai regardée sans émotion et je l'ai écrasée du pied. J'ai dit cela à mon mari, mais il ne m'a pas cru. Il est allé vérifier et il est revenu en pleurant. » Ensuite, elle a pu pour la première fois depuis des années aller dans sa maison de campagne dont elle avait hérité de sa grand-mère, mais dans laquelle il y avait bien sûr des araignées. Elle n'y allait plus jamais. Un jour, toute souriante, elle m'a dit « Vous savez, la maison à la campagne, je m'y sens bien maintenant. L'autre jour, mon mari avait une araignée sur l'épaule, je l'ai prise entre mes doigts et je l'ai lancée dans l'herbe en me disant « Après tout, elle a bien le droit de vivre, elle aussi. » Dans ce cas, on ne peut pas dire que cette phobie a été traitée rapidement. Mais ce qui me paraît intéressant ici, c'est l'autonomie que cette femme a eue pour se traiter grâce à l'EFT. Elle a d'ailleurs pleinement intégré l'EFT et s'en est emparée, et c'est cela que je trouve formidable. Je pense que vous avez en tête l'importance et la complexité de la pathologie dont cette femme souffrait. Nous avions un rendez-vous toutes les 2 semaines à peu près, au cours duquel elle élaborait avec moi les thèmes et les séquences qu'elle voulait traiter. Et chez elle, chaque jour, elle faisait à son domicile environ 30 minutes d'EFT. Au cours des rendez-vous ultérieurs, nous abordions les difficultés qu'elle avait pu rencontrer afin qu'elle puisse poursuivre de façon satisfaisante le travail psychothérapeutique. Elle a pu traiter ainsi son agoraphobie, son anxiété sociale, le viol, ça a demandé du temps. Et tout à l'heure, Dominique Monnette parlait de souvenirs qui étaient liés à l'odeur, la première, et elle, ça a été ça. La première chose qu'elle a voulu traiter, c'était l'odeur du violeur. Et même, elle a pu traiter une partie des TOC. Certes, cela s'est fait sur 2 ans quand même, hein, mais cette femme pouvait vivre une autre vie. Elle était méconnaissable, elle était libérée. Elle m'a vraiment sidéré. Moi, je ne croyais pas. Hein. Elle a même pu obtenir un congé de formation et a réussi auprès d'un travail intense, c'était une femme supérieurement intelligente malgré tout, à intégrer Sciences Po Paris, le rêve de sa vie depuis sa tendre jeunesse. Sans l'EFT, comment aurions-nous pu faire ? Ce cas, pour moi, vient vraiment illustrer l'intérêt de l'EFT dans l'autonomie que cette thérapie peut procurer. Cette autonomie que permet l'EFT peut être utilisée aussi au quotidien par tous, par vous, par moi, pour ce que j'appelle le nettoyage émotionnel que Marie-Odile tout à l'heure appelait l'hygiène du thérapeute. Hein. Mais bon, je n'ai pas le temps d'aborder ce point-là aujourd'hui. Pour terminer, ce que je voudrais dire, qu'est-ce qu'il en est dans la pratique d'un médecin de l'EFT ? L'EFT peut être utilisé pour un grand nombre de problèmes et nous n'en avons abordé que quelques-uns aujourd'hui. Nous avons vu au travers de quelques exemples que c'était une technique souvent rapide, souvent très efficace et simple, mais pas forcément facile. Cela veut dire que de toute façon, une bonne formation est nécessaire afin d'éviter le plus possible des déboires. Dans la pratique d'un psychiatre, nous avons vu que c'est un puissant accélérateur du processus psychothérapique qui, de plus, a l'avantage de permettre au patient une certaine autonomie dans son évolution. Pour moi, ça, c'est vraiment un point capital. En tout cas, ce qui me paraît évident, c'est que tout médecin devrait connaître l'EFT. Il pourrait en retirer de grands bénéfices, d'abord en l'utilisant pour lui, pour se nettoyer de toutes les émotions qu'il peut rencontrer dans son quotidien, et Dieu sait si elles sont nombreuses. Ensuite, connaissant cette thérapie, il pourrait orienter les patients et s'il en a le désir, après une formation, il pourrait aussi pratiquer progressivement dans sa clientèle, dans certaines indications. De toute façon, une reconnaissance de l'EFT par la faculté n'est pas à l'ordre du jour. Mais je pense qu'il faut faire confiance aux patients car c'est eux qui feront avec vous tous, avancez la reconnaissance de cette superbe technique psychothérapeutique. Voilà ce que je voulais dire ce soir.